en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le lundi 5 décembre 2012, la Fondation Del Duca accueillait un colloque organisé par l'association Être Humain. Une association qui propose de faire intervenir plusieurs personnalités pour livrer leur analyse sur l'homme contemporain. Pour ce colloque, le thème retenu était naissance, émergence et manifestation de la conscience. Dans cette retransmission, Canal Academy vous propose d'écouter Jean Béchler, sociologue, philosophe et historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui a intitulé sa conférence « La conscience, point de vue d'un anthropologue ». Retrouvez tout de suite Jean Béchler.
Qu'est-ce que la conscience, le point de vue de l'anthropologue ? Il faut que je commence par définir ce que j'entends par anthropologie. Ce mot a des acceptions variées. Je le définis comme la et les sciences du règne humain, à la manière dont la biologie s'occupe du règne vivant et la cosmologie du règne inanimé. Alors, je vais soutenir une thèse non pas paradoxale, mais qui peut peut-être vous heurter, à savoir que, à mon sens, la conscience est un mot qui est à ce point chargé d'histoire cognitive qu'il n'a plus de sens défini. Et par conséquent, ou bien il faut à chaque fois définir le mot lorsqu'on croit bon de l'utiliser, ou bien, et c'est ma position, il faut ne jamais l'utiliser, sauf dans des occurrences extrêmement précises où, effectivement, conscience morale, conscience d'eux, au sens de prendre conscience, ne peuvent être utilisées. Alors, il faudrait pouvoir le remplacer par un autre mot, mais je n'en ai pas trouvé, ce qui est extrêmement gênant. Et je parlerai par conséquent du dispositif humain. La conscience est le dispositif humain dont le vivant a doté une espèce d'un type particulier pour lui permettre d'assurer sa survie et d'atteindre sa ou ses destinations. Et je développerai, si vous voulez, cette thèse, et vous verrez, du moins je l'espère, que le mot de conscience n'émerge comme utile, voire indispensable, que dans deux ou trois occurrences extrêmement précises. Et pour tout le reste, on peut complètement s'en passer. Pour soutenir cette thèse, il faut répondre à trois questions. La première et la plus importante, quelle conception de la nature humaine est retenue dans ce cadre ? Je donne ma réponse que je ne développerai pas. Notre espèce est définie par le fait que sa nature est un ensemble de virtualités que l'on peut considérer comme génétiquement déterminées, des virtualités dont les actualisations sont culturelles. Une illustration commode de cette position peut être trouvée dans la distinction entre langage et langue. Nous sommes manifestement programmés pour le langage, mais pas pour parler telle langue. Nous sommes programmés pour parler, mais pas pour parler le français. Le seul moyen de parler français, chinois ou autre, c'est de l'apprendre au contact de locuteurs qui pratiquent cette langue. On peut montrer que tout ce qui est humain peut toujours s'inscrire dans cette distinction entre virtualité, je le répète, et actualisation culturelle, d'une part. Et d'autre part, nous sommes une espèce dont les degrés de liberté sont si élevés que l'on peut soutenir que pas deux individus humains ne sont strictement identiques et interchangeables. Autrement dit, nous sommes une espèce virtuelle qui doit actualiser son humanité en l'inventant, et il y a un nombre pratiquement infini de manières idiosyncrasiques de réussir cette transcription. Alors, sur cette hypothèse, si vous voulez, de départ, je crois qu'il est possible de déduire au sens fort le dispositif, la nature du dispositif indispensable à l'effectuation d'une espèce ainsi définie. Et à partir du moment où l'on a déduit la nature du dispositif, eh bien, il devient possible d'en déduire, dans une deuxième étape, le statut du dispositif dans le réel. Et si je n'ai pas entièrement erré, ben vous verrez que, je le répète, le mot de conscience est inutile, mais peut être introduit ou retenu pour désigner certains éléments de ce dispositif. Alors, j'irai rapidement parce que le temps qui m'est imparti est limité et parce que mon propos est surtout de vous indiquer, enfin, comment dire, l'esprit général, au sens d'esprit des lois de Montesquieu, de la thèse que je vais esquisser devant vous. Donc, commençons par la nature du dispositif. Alors, pour en obtenir une vue adéquate, eh bien, il faut un point d'appui, et ce point d'appui, je l'ai déjà donné, à savoir la liberté humaine comme non-programmation. On peut en déduire, d'une manière simple, je crois, et rigoureuse, d'une part, des dimensions de l'humain, d'autre part, des composants de l'humain, et enfin, des états de l'humain, au sens de états successifs, en termes philosophiques plus précis, seraient des modes de l'humain. Commençons par les dimensions. De la définition adoptée, deux dimensions sont immédiatement déductibles. Il y a évidemment une dimension biologique, puisqu'il est question d'une espèce du vivant dont le dispositif anatomo-physiologique la rend virtuelle, mais en même temps actualisable. Je suis d'une incompétence radicale concernant cette dimension, mais nous pressentons de quoi il s'agit. À l'opposé, il y a nécessairement une dimension culturelle, puisque les actualisations sont effectuées et acquises dans le cadre de cercles sociaux et culturels de rayons extrêmement variés qui vont, si vous voulez, du couple jusqu'à la civilisation et au-delà même l'humanité, si elle devait devenir le sujet de son histoire, ce qu'elle est en train d'effectuer en ce moment même. Mais il y a, je crois, deux autres dimensions qui sont impliquées par les deux premières. Il y a une troisième dimension qui n'est pas désignée, mais que je propose d'appeler anthropique, anthropique A-N-T-H, c'est-à-dire la dimension qui permet l'actualisation des virtualités humaines en effectuation culturelle inscrite dans la réalité, qui exige que des individus humains soient réunis en société et fassent passer donc le virtuel à l'actuel en prenant en charge les problèmes que soulève cette transition du virtuel à l'actuel et essaye de leur trouver des solutions. Autrement dit, l'anthropique, pour moi, est tout ce qui concerne je vais le préciser tout à l'heure. Et une quatrième dimension me paraît indispensable, c'est la dimension psychique, parce que la distance entre le biologique et l'anthropique est trop grande pour que l'on puisse raisonnablement avancer dans l'exploration de ces questions complexes. Je vous renvoie à toutes les difficultés que soulève un dualisme rigide entre corps et esprit, où la dimension psychique est éliminée. Personne n'a jamais réussi à surmonter les difficultés, parce que, tout simplement, c'est insoluble au sens fort du terme. Alors, la dimension psychique est à la fois biologique et anthropique, mais sans se confondre ni avec l'une ni avec l'autre. Donc, point de départ, l'humain est un dispositif à quatre dimensions, biologique, psychique, anthropique, culturel. Non pas au sens d'une juxtaposition de couches, si vous voulez, mais au sens d'un espace dont chaque point est déterminé par chaque dimension. Autrement dit, tout ce qui est humain est de fondation simultanément rattachable aux quatre dimensions. Alors, les déterminations, autrement dit, la position des points dans cet espace, sont indéfiniment variables, selon précisément la position. Donc il peut y avoir des phénomènes où le biologique tend à l'emporter, par exemple maladie mentale, ou au contraire, le culturel tend à l'emporter, dimension religieuse par exemple, mais on ne peut jamais isoler, c'est bien ça, une dimension. Et donc, tout phénomène, je le répète, parce que c'est très important, est toujours déterminé par les quatre dimensions, mais en proportion variable. Et on ne peut pas déduire a priori quelle est la position du point que l'on veut étudier dans cet espace à quatre dimensions. Il faut commencer par aller y voir, si vous voulez, et c'est ensuite qu'on peut essayer de le préciser et de l'expliquer. Pour compliquer encore un peu les choses qui le sont déjà, et pour rejoindre les constats empiriques, je crois qu'il faut introduire une distinction entre des niveaux de réalité. Chaque point de cet espace quadridimensionnel peut être saisi, parce que c'est dans sa nature même, à trois niveaux de réalité. Le niveau de l'espèce spécifique, nous sommes tous des humains, si vous voulez, et à ce titre, comment dire, nous avons en commun, eh bien précisément, tout ce dispositif à quatre dimensions. Mais il y a un deuxième niveau, le niveau culturel, c'est-à-dire la manière dont le dispositif humain virtuel est actualisé effectivement dans un cercle social donné. En fait, il n'y a jamais, dans aucune société, un seul niveau culturel. Il y en a toujours plusieurs, au minimum trois ou quatre, même dans les sociétés les plus primitives, les plus simples possibles. Nous sommes donc culturalisés, si vous voulez, à plusieurs niveaux. Et enfin, il y a un niveau idiosyncrasique, c'est-à-dire la manière unique dont chaque individu réalise les niveaux spécifiques et culturels. En résumé, si vous m'avez suivi, vous admettrez la conclusion suivante, au moins au titre d'hypothèse. Chaque individu humain est un dispositif quadridimensionnel idiosyncrasique. Autrement dit, chacun d'entre nous, et dès les origines, est une singularité potentiellement infinie et par conséquent un mystère insondable que l'on peut immédiatement percevoir lorsqu'on pose la question de l'identité. Eh bien, on n'arrive jamais à donner une réponse exhaustive. Déjà, Aristote avait dit que le singulier ne peut pas être épuisé par la connaissance rationnelle. Je crois que c'est vraiment le point d'origine, si vous voulez, d'un mystère humain. Les composants de ces dimensions, c'est-à-dire ce dont chaque dimension est composée pour pouvoir assurer sa contribution au dispositif humain. Une démarche déductive permet également de repérer, si vous voulez, les composants essentiels. Donc, du côté biologique, sans être spécialiste, on sait qu'il y a un dispositif anatomophysiologique complexe où, selon toute évidence, le système neuronal semble jouer un rôle essentiel. Bon, ça relève des biologistes. Du côté psychique, on peut montrer que ce psychisme ne peut fonctionner, c'est-à-dire assurer sa fonction, que s'il combine trois départements, le département de la sensibilité, le département de l'intelligence et le département de la volonté. Du côté anthropique, il ne peut assurer sa fonction qu'en mobilisant trois activités fondamentales qui définissent l'espèce, ou qui sont propres, pas exclusives, mais enfin qui définissent tout de même pour beaucoup l'espèce humaine, à savoir agir, mobiliser des moyens au service de fins, connaître, trouver des réponses aux questions. Critère de l'agir et le bien sont les fins et le système des fins. Le critère du connaître, c'est le vrai. Les bonnes réponses aux questions bien posées, si vous voulez. Et enfin, le faire, il n'y a pas de mot suffisamment précis pour désigner le fait d'imprimer des formes à des matières ou de matérialiser des formes. Rien d'humain ne peut être actualisé sans recourir à ces trois activités fondamentales dont chacune a sa logique et sa rationalité propre. Ces trois activités sont mobilisées au service de la résolution des problèmes humains, qui sont de nature variée, les ressources sont rares, comment réunir suffisamment de ressources pour assurer les besoins humains, vous avez la définition d'un domaine que j'appelle un ordre, que l'on peut convenir d'appeler économique. Comment assurer l'efficacité des entreprises humaines ? Cela définit un ordre technique. Quelles sont les fins dernières de l'espèce humaine ? Cela définit un ordre éthique qui est appliqué à la gestion de ce problème. J'en distingue une douzaine. Eh bien, première occasion de faire, pas de faire naître, mais de trouver une pertinence au mot de conscience, la conscience éthique, qu'on appelle généralement la conscience morale. Dans ce cadre extrêmement précis, on peut effectivement avoir besoin de recourir à ce mot. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable, mais on peut le définir précisément comme la disposition psychique et anthropique qui permet à des acteurs humains, si vous voulez, de gérer leurs devoirs d'État et de les mettre au service de leur fin dernière. Enfin, les composants culturels du dispositif humain, ben, ce sont toutes les effectuations des cultures et des civilisations. Et là, on entre dans une diversité à peu près infinie d'objets. Donc, les productions humaines, en termes économiques, en termes éthiques, techniques, ludiques, bon, et ainsi de suite. Conclusion des composantes, chaque individu humain assure son existence en mettant en œuvre, à la fois et en même temps, ses composants biologiques, psychiques, anthropiques et culturels. Et ils sont toujours présents, quelle que soit l'activité considérée, aussi menue soit-elle. En ce moment même, je suis sûr que si on me mettait des choses sur le cerveau, il se passerait plein de choses. Donc, mon biologique est mobilisé, mon psychique est mobilisé. J'essaie de vous expliquer de manière rationnelle, anthropique, si vous voulez, ce que j'ai en tête. Et je m'exprime pour le moins en français et dans le cadre d'une culture qui remonte à des millénaires en amont. Je ne vois pas... Enfin, il n'y a pas possibilité, si vous voulez, d'évoquer un seul fait humain qui ne soit pas rapportable à ces dimensions. Enfin, dernière contribution, les modes et les états, c'est-à-dire les états successifs du dispositif, à la fois dans ses dimensions et dans ses composants. Alors, deux échelles du temps sont à considérer. Là, ce sont des banalités. De jour en jour, il y a un cycle circadien de la gestion, si vous voulez, de la mise en œuvre de ce dispositif. Et donc, comme vous le savez aussi bien que moi, il y a des activités diurnes, plus ou moins vigilantes, avec des pointes de concentration et des phases de rêverie. Et puis, un régime nocturne où alterne, disons, le sommeil profond et le rêve. Alors, les termes consacrés de conscient et d'inconscient peuvent être utilisés dans ce cadre-là pour distinguer, justement, le conscient, c'est le diurne, et l'inconscient, c'est le nocturne. À mon avis, c'est beaucoup trop vague, et on peut s'en dispenser complètement. On n'a pas besoin de ces mots de conscient, inconscient et subconscient. Et l'autre échelle du temps est beaucoup plus compliquée, à savoir tout au long de la vie, les âges de la vie, si vous voulez, où le dispositif humain est l'objet de mise au point, de gestion et de mobilisation tout à fait différentes. On peut distinguer cinq étapes fondamentales que vous connaissez aussi bien que moi. L'enfance, qui est la mise en place du dispositif. Alors, combien de temps dure l'enfance ? Ben, ça dépend des composants. Aux alentours de 6-7 ans, le dispositif est en place. Tout ça, empiriquement, les humains dans les différentes cultures l'avaient noté depuis très longtemps, probablement depuis toujours. L'adolescence, qui est consacrée à l'apprentissage du dispositif. Alors, cet apprentissage demande plus ou moins de temps selon la complexité de la culture et selon la position occupée dans cette culture. Et on peut plaider que l'adolescence existe partout, mais que dans les sociétés modernes très complexes, elle tend à occuper une place beaucoup plus importante que dans les sociétés antérieure et que l'adolescence dure aujourd'hui aux alentours de 28, jusqu'à vers 28 ou 30 ans. Enfin, bon. Comme toujours, les garçons étant plus en retard, étant en retard par rapport aux filles. Bon. Troisième étape, la maturité, c'est la mise en œuvre du dispositif. C'est la période où l'on donne, si vous voulez, toute sa mesure, ce que les Grecs appelaient l'acmé, le sommet, si vous voulez. Puis vient la phase de sénescence, c'est-à-dire la dégradation de la mise en œuvre, et enfin la sénilité, la détérioration du dispositif lui-même. Alors, je ne sais pas trop où j'en suis, mais j'ai certainement dépassé la maturité. Alors, chaque individu humain, du moins s'il ne meurt pas trop tôt, tout être humain parcourt des cycles circadiens, et s'il ne meurt pas trop tôt, la parabole de vie est une des grandes nouveautés de nos sociétés depuis le XXe siècle, c'est tout récent, c'est que la probabilité que chacun parcourt toute la parabole est à la naissance, sinon une certitude, du moins une probabilité très élevée en raison de l'allongement de l'espérance de vie, ce qui change complètement les perspectives. Alors ça, c'est un point de vue, si vous voulez, de sociologue. Enfin, c'est le domaine du culturel. Conclusion de ce premier point. Le mot de conscience, dont l'origine et l'usage sont manifestement anthropiques. C'est cette dimension-là qui a éprouvé le besoin, si vous voulez, d'un mot qui se trouve avoir été conscience, c'est l'étymologie lui-même. C'est le fait de savoir, si vous voulez, en combinant cum, si vous voulez, un certain nombre de données, de manière à être conscient de ce, du monde dans lequel on est, si vous voulez. Cette dimension est réelle, mais elle ignore les autres. Et donc, ça pose le problème dès qu'on introduit un point de vue biologique. Mais enfin, quelle est l'origine biologique de la conscience, qui est une très mauvaise question. Il n'y a pas une origine biologique. Mais je vais y arriver en précisant ce que j'entends par le statut du dispositif. La thèse que je défends a été précisée dans les termes suivants. La conscience, entre guillemets, et le dispositif dont Dieu et ou la nature ont équipé l'espèce humaine et ses représentants de manière à leur permettre de survivre et de trouver leur destination. Ce dispositif intègre quatre dimensions, de nombreux composants et une succession d'états. Pour aller plus loin, il faut et il suffit de poser en hypothèse que le dispositif est un ensemble qui, d'une part, est composé d'éléments dont chacun est indispensable à son efficience, et d'autre part, un ensemble qui est indispensable à l'efficience de chaque élément. Donc, l'ensemble et les éléments sont donnés en même temps. De là, il est possible de déduire le statut dans deux directions. Dans une direction que l'on appellera synchronique en termes de virtualité et d'actualité, et une déduction en termes diachroniques en termes de coévolution des éléments et de l'ensemble. Examinons d'abord le virtuel et l'actuel du dispositif. Pour vous faire comprendre mon propos, qui ici devient un peu subtil n'est pas le mot, mais peut-être un peu compliqué, je vais prendre l'illustrer par un exemple tout à fait caricatural. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je l'ai pris, mais bon, on prend un exemple. On peut établir que des humains peuvent rédiger un traité de primatologie. Par contre, on ne connaît aucun primate qui ait été capable de rédiger un traité d'anthropologie. Au moins, il y a un point sur lequel notre espèce se distingue des autres. On peut poser la question, pourquoi ? Pourquoi cette différence ? Eh bien, la réponse est parce que les humains réunissent ou remplissent certaines conditions de possibilité que les primates ne remplissent pas. Alors, quelles sont ces conditions de possibilité requises ? On va retrouver tous les éléments. C'est une simple esquisse, évidemment. D'abord, il faut que des primates existent, pour que la primatologie existe. C'est-à-dire qu'il y ait une réalité indépendante du dispositif humain capable de prendre conscience de cette réalité qui lui est extérieure. Autrement dit, de transformer en objet d'étude cet objet extérieur. prendre conscience d'eux. Là aussi, on peut considérer que l'usage du mot est justifié parce qu'on peut préciser ce que l'on entend par là. Ça ne me paraît pas indispensable. Deuxième condition de possibilité, il faut une communauté intergénérationnelle de primatologues appliqués à l'étude des primates, accumulant du savoir et le transmettant de génération en génération par acculturation des individus intéressés, évidemment, à ces questions. Alors, en creusant bien ce sujet, on verrait émerger les caractères distinctifs de la modernité. Sans elle, la primatologie est impossible, et de fait, il n'y a pas de primatologie avant l'époque moderne. Troisième condition, chaque chercheur a subi l'apprentissage qui lui permet de mettre en œuvre une certaine forme de rationalité cognitive, idéalement dans ses trois versions rationnelles, la version empirique qui repose sur des observations, des classifications, des inductions et des inférences. La rationalité scientifique, on pose des hypothèses dont on tire des propositions en forme de prédictions. Si l'hypothèse est vraie, alors on devrait observer ceci. Et puis on va voir si effectivement, alors comme ça ne marche jamais du premier coup, il faut recommencer. Et on est engagé dans une exploration. Et enfin, si tout va bien, à la fin, on a une explication des faits. Ils sont comme ça parce qu'ils ne peuvent pas être autrement. C'est ce qu'Aristote résumait en disant « Le point de départ de toute enquête rationnelle est l'étonnement. » Tiens, pourquoi c'est comme ça ? Et le point d'aboutissement est un autre étonnement. Comment s'étonner que ça puisse être autrement que ça n'est ? Enfin, voilà. Et ben, c'est effectivement la finalité, la fin, si vous voulez, de l'enquête rationnelle et ce deuxième étonnement. Et enfin, il faudrait probablement recourir également à la rationalité réflexive, c'est-à-dire celle qui s'interroge sur, d'une part, l'ontologie, quelle est la nature, si vous voulez, qui permet de dire que des primates ne sont pas des humains, même si les humains sont des primates. Enfin. Et l'aspect gnoséologique, qu'est-ce qui nous permet de conclure par des propositions que nous affirmons être vrai. Alors ce sont de très vastes débats, si vous voulez, depuis, non seulement en Europe, depuis les Grecs, enfin les Chinois se sont posés ce genre de questions, et les Indiens aussi. Alors, autre condition, pour connaître rationnellement, dans les trois dimensions, eh bien il faut appliquer sa volonté à l'objet d'étude, mobiliser tous les départements de l'intelligence, c'est quoi ? La perception, la mémoire, la réflexion, le jugement, la décision, et ainsi de suite, et être mu par certaines dispositions de la sensibilité, la curiosité, tout le monde n'est pas curieux, la vanité peut-être, essayer de faire mieux que l'autre primatologue de manière à faire parler de soi, l'orgueil, le sentiment d'identité, tiens, qu'est-ce qu'un être humain ? Bon, tous les départements de la sensibilité. Je crois qu'il y a un instinct métaphysique dans cette sensibilité, parce que sans elle, sans ces contributions, ces composants du psychisme, la rationalité demeure virtuelle. Elle ne peut pas s'actualiser. Et enfin, pour qu'il y ait volonté, intelligence et sensibilité, il faut un équipement anatomo-physiologique de type approprié. Je laisse le soin aux neurophysiologistes de le préciser. Sans lui, le psychisme humain demeure virtuel. Alors, si je généralise cet exemple caricatural, ben, j'obtiens les propositions suivantes. Le biologique conditionne le psychique, qui conditionne l'anthropique, qui conditionne le culturel. Mais chaque dimension ne remplit les conditions exigées d'elle qu'à la condition de bénéficier de tous ses composants en état de marche. Si vous en enlevez un seul, ça ne peut pas marcher. Exemple, la conscience, c'est une troisième occurrence où le mot « peut » est, à mon avis, le seul probablement où il soit tout à fait justifié à côté de la conscience éthique, si vous voulez. C'est au sens de « être conscient de », « prendre conscience de », c'est-à-dire se détacher d'un objet, dont soi-même, pour le considérer consciemment. Donc prendre une certaine distance de manière à rendre extérieur à soi tout, y compris soi-même. Bon. Cette faculté humaine, qui paraît et qui est effectivement mystérieuse et qui est probablement une exclusivité humaine, on ne sait pas précisément si les chimpanzés n'ont pas au moins des esquisses de conscience au sens ainsi défini, est indispensable à l'effectuation de l'humain. En effet, nous sommes une espèce exceptionnellement grégaire. Mais grégaire, non pas au sens des fourmis ou des termites, qui ne sont pas des sociétés, c'est un abus de langage, ce sont des organismes complexes, enfin, qui ont une certaine manière de fonctionner comme organisme. Nous sommes une espèce extraordinairement grégaire qui doit mobiliser trois ordres anthropiques pour réussir cette grégarité. D'un côté, il faut être capable de composer des groupes, c'est-à-dire de transformer des acteurs individuels en un acteur collectif, doté d'une sensibilité, d'une intelligence et d'une volonté collective, ce qui suppose des transferts de ces sensibilités, intelligence et volonté individuelles à une entité collective, ce qui ne va pas de soi et explique une bonne partie des échecs humains. Vous avez deuxièmement une contribution de ce que j'appelle la sociabilité, c'est-à-dire la nécessité de transmettre des informations à travers des réseaux, si vous voulez, composés de relais. Et enfin, il y a une troisième dimension que j'appelle la socialité, c'est, pour simplifier, ce qui rend les individus, les groupes et les réseaux solidaires, c'est-à-dire le ciment des sociétés humaines, principe de cohérence et de cohésion. Tout ça est extraordinairement complexe, mais on peut, si vous voulez, en faire des objets d'études anthropiques, si vous voulez. C'est l'objet, du moins, de certains courants de la sociologie. Alors, la variabilité des solutions que la sodalité, la sociabilité et la socialité permettent, c'est-à-dire les actualisations culturelles, il y en a une très grande variété, eh bien, exige que les acteurs aient conscience de ce qu'ils font. Il est impossible de réussir, si vous voulez, dans ces domaines sans prendre conscience, au sens de défini, une certaine distance pour y arriver. Pour résoudre des problèmes qui permettent d'agir, de faire et de connaître, eh bien, la capacité à se poser les problèmes qui se posent est absolument indispensable, comme est indispensable la capacité à inventer mentalement les solutions de ces problèmes avant de les mettre à l'épreuve de la réalité, puisque rien n'est programmé, il faut inventer, donc on ne peut pas savoir à l'avance si ça marchera ou si ça ne marchera pas. Et de fait, toutes les sociétés humaines passent leur temps à effectuer ces tests d'efficacité, si vous voulez, et à sélectionner ceux qui marchent ou qui paraît marcher, du moins pendant un certain temps. Il faut par conséquent se poser des problèmes et en chercher subjectivement la solution, ce qui exige la capacité du psychisme à se détacher de lui-même et à se percevoir comme un objet distinct. Autrement dit, une objectivation subjective de la subjectivité objective est indispensable. Bon. Et enfin, ce retournement sur soi-même exige probablement, mais là je passe le relais aux biologistes, une structure modulaire, hiérarchisée, intégrée du cerveau. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne vois pas très bien comment ça ne pourrait pas être fonctionner autrement. Alors, la réunion de toutes ces conditions extraordinairement complexes et compliquées, les deux mots ne sont pas synonymes, ne produit pas, donc la réunion des conditions ne produit pas le conditionné, mais le fait passer du virtuel à l'actuel. Par exemple, le cerveau rend possible la primatologie, mais ne sécrète pas la primatologie, à la manière dont une glande sécrète une humeur. Et le cerveau sécrète encore moins les primates. Enfin. Donc cette position, l'idée que la conscience est un produit du cerveau, n'a pas de sens, tout simplement. Même s'il est un cerveau est indispensable pour que la prise de conscience puisse s'effectuer. Dernier point, la coévolution. Ben, le dispositif humain, tel que j'ai essayé de le reconstruire par déduction, d'une manière évidemment très maladroite, ce dispositif humain est ce qu'il est, parce que l'espèce a franchi un seuil de complexité qui la prive de l'inscription génétique de son humanité et par conséquent lui impose la charge de l'inventer, ce que j'appelle l'hominisation et l'humanisation. Nous ne naissons pas humains, nous le devenons. Bien entendu, les virtualités ne sont pas quelconques, mais les actualisations non plus. Mais les actualisations ne sont pas inscrites dans le génome. Donc, on devient humain et on ne cesse jamais de le devenir. Toutes les dimensions, tous les composants et tous les états sont donnés en même temps, mais sont en réaménagement permanent et perpétuel de la naissance à la mort. Donc, l'ensemble et ses éléments ont évolué ensemble, ont coévolué pendant des millions d'années, selon ce que l'on peut savoir, et ont ensemble franchi des seuils spécifiques au sens d'espèce, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas eu à un moment, comment dire, un seuil biologique qui a été franchi, puis ensuite, on a mis au point les autres. Non. Tout cela se tient, forme, si vous voulez, un système, si l'on veut recourir à ce mot. Conséquence, et qui est de quelque importance, je crois, la pression sélective a pu provenir de n'importe quelle dimension de l'humain. Quelques exemples. Une innovation culturelle, par exemple, le passage du harem au ménage, une innovation culturelle, exige l'application de la rationalité et rend possible l'application de la rationalité aux potentialités émergentes. Quelle est la gamme des possibles une fois l'innovation introduite? Ce qui peut donner une prime aux plus innovants, leur donner par conséquent des avantages reproductifs et donc sélectionner des mutations congruentes. Donc, mettre en postulat que ça commence toujours par le biologique me paraît faux, purement et simplement. Ça peut commencer par le culturel. Autre exemple, la naissance de la science entre 1600 et 1630, qui est tout de même, comment dire, une émergence culturelle particulièrement importante, même si, évidemment, la dimension anthropique y est essentielle. Cette naissance a entraîné des bouleversements culturels auxquels des adaptations psychiques ont été indispensables. Nous sommes en train, plus exactement, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants sont en train, si vous voulez, de s'adapter psychiquement à l'ordinateur et à l'informatique. Et je ne vois pas la possibilité qu'il n'y ait pas de réaménagement synaptique et neuronaux entraîné par cette innovation. La conscience de soi, une fois émergée, et elle a émergé à peu près sûrement avec l'espèce, en témoigne l'art pariétal, par exemple. Dès que cette conscience de soi est donnée, le pourquoi des choses devient une question inévitable, puisqu'on peut prendre une distance par rapport aux choses. Alors pourquoi c'est comme ça et pas autrement ? La quête métaphysique est une conséquence immédiate, si vous voulez, dont résulte la production de mythes pour essayer d'expliquer pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Et ces mythes peuvent être mis au service de la quête métaphysique dans le développement des religions. Dernier exemple, et j'en aurai fini, la bipédie. Probablement un phénomène surtout anatomo-physiologique, libère les mains, qui libère ou rend possible l'habileté manuelle, ce qui fait de l'espèce humaine un homo faber, le fer, la possibilité de, d'informer des matières ou de matérialiser des formes, et tous les objets culturels, sans aucune exception, deviennent possibles de ce champ infini, si vous voulez, de la production culturelle humaine. Voilà, j'en ai fini. Je n'ai pas besoin du mot de conscience, sauf, je le répète, peut l'utiliser pour la conscience morale et pour la conscience de soi, ce qui vous donne la distinction qui n'est pas effectuée en français entre ça y est, conscience, voilà, vous avez compris, en anglais, conscience et consciences. Personnellement, je sais que j'ai publié des milliers de pages, je pense n'avoir jamais utilisé le mot de conscience, et n'en avoir, parce que je n'en ai pas éprouvé le besoin. Je n'ai pas vérifié, mais je le crois. Merci pour votre attention.
Canal Académie vous propose la retransmission de la conférence de Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, intitulée « La conscience, point de vue d'un anthropologue ». Cette conférence intervenait dans le cadre d'un colloque organisé par l'association Être Humain le 5 décembre 2012 à la Fondation Del Duca. Canal Académie vous propose d'écouter les autres conférences tenues lors de cette journée. Pour ce faire, rendez-vous sur le site canalacademie.com et entrez le mot « conscience » dans la barre de recherche. À bientôt sur Canal Académie pour d'autres retransmissions.